Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie là où est à nous que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie.
Les petits et les grands lisent en même temps. L'émission qui parle littérature jeunesse un mercredi sur deux sur Jet FM 91.2.
Bonjour Claire Duvivier, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui pour parler de ton livre, ça nous fait très plaisir. Comment ça va et quelle est ton actualité, comment ça se passe?
Eh bien, bonjour, merci beaucoup pour l'accueil. En tout cas, je suis ravie d'être là pour parler du livre. Je viens de publier donc un roman jeunesse à l'école des loisirs qui s'appelle Entrer dans le monde. Donc voilà pour mon actualité.
Ça marche. Comment est né ce livre, Entrer dans le monde? D'où est venue l'idée? C'est-à-dire, comment a germé l'idée? Comment l'histoire est venue? Comment tu l'as inventée? Comment tu as écrit ce livre? Comment cette histoire est-elle née?
Cette histoire, elle aurait pu ne jamais naître en fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai publié mon premier roman en 2020, qui est un roman adulte, qui est un roman de fantaisie, qui s'appelait Un long voyage, qui est sorti dans des circonstances un peu chaotiques parce que c'était 2020, c'était le confinement, c'était bon, on se rappelle un peu ces circonstances-là. Et en fait, à sa sortie, ce livre a été lu par un éditeur de l'école des loisirs qui m'a contacté, qui m'a dit qu'il avait beaucoup apprécié le livre hein, et qui me demandait si je me sentais d'écrire quelque chose pour la jeunesse. Et en fait, je n'y avais jamais pensé. J'adore la littérature jeunesse, mais je ne me voyais pas moi en écrire, en fait. Je trouve que c'est très technique et que c'est très compliqué. Cette question m'a forcé un peu à y réfléchir. Et ce qui est bien, c'est que j'ai eu pas mal de temps pour le faire, vu que j'ai tout de suite prévenu en disant, là, je viens de me lancer dans une trilogie de fantasy, ça va m'occuper un bon bout de temps. Donc, l'idée reste là, reste dans ma tête, hein, mais ça va mettre un petit peu de temps pour la mettre en œuvre. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai pu faire germer cette petite graine très tôt. Elle a pris tout le temps de se développer. Très vite, j'ai voulu écrire une histoire où les animaux étaient très importants. J'ai eu très vite l'idée de ce garçon et de son chat, de ce garçon Chavi et de son chat. On aurait pu croire que j'allais faire un autre roman de fantasy, parce qu'après quatre romans de fantasy, voilà, ça semblait un petit peu logique. Mais en fait, c'est vraiment une idée de science-fiction qui m'est venue. J'avais vraiment envie d'ancrer ce récit dans le futur et pour parler, bah, de l'avenir, des relations entre humains et animaux, entre autres, bien sûr.
Ok. Bah écoute, on voit que c'est une thématique forte du livre, les animaux et les interactions entre humains et animaux. Moi, ce que j'ai retenu de ce livre, c'est un enfant qui est très spécial, avec son ami chat très spécial aussi, et qui invente une définition de l'amitié en apprenant à une intelligence artificielle à se révolter pour sauver la vie sur Terre. C'est très simplifié. Qu'est-ce que j'ai oublié du message qu'il faut retenir de ce livre?
Alors, c'est tout à fait ça. Je pense qu'il y a plein de façons de résumer Entrer dans le monde. Et surtout, c'est un peu difficile de le faire sans trop en révéler, parce qu'il y a quelques surprises au détour du chemin. Mais j'aime beaucoup cette approche-là sur l'amitié, en fait. Parce que pour moi, c'est une notion centrale dans le roman. C'est aussi bien l'amitié qui peut lier des jeunes adolescents au moment où ils sont en âge de découvrir un peu plus largement ce qui les entoure. Donc, il y a des bandes d'amis, il y a des liens plus particuliers entre certains ados et d'autres. Mais aussi ce lien qui va relier des humains et des animaux. Quant à l'intelligence artificielle, ça m'intéressait aussi de parler à la façon dont elle pouvait encore évoluer dans l'avenir. Donc ça aussi, c'est une autre des notions centrales du roman, et la façon dont ça va se lier justement, bah, on a les liens entre les humains, les liens entre les humains et les animaux, et les liens entre les êtres humains et les intelligences artificielles qui vont se greffer là-dessus.
Ça marche. Il y a un passage très fort sur l'amitié où le petit héros, alors je ne sais pas comment on prononce, je pense Xabi ou Chabi, comment ça se prononce?
Alors, c'est un prénom basque, ça se prononce Chabi, mais on peut dire
Chabi.
Xabi, je ne suis pas
D'accord.
défensive sur la
Ça
défensive là-dessus,
marche,
il n'y a
non,
aucun
mais
problème.
c'est très intéressant, c'est vrai que je ne savais pas. Alors, Chabi décide de suivre son destin et son amie Ariana décide de respecter son choix. Est-ce que c'est une définition de l'amitié, accompagner les amis dans leur choix tout en les respectant et sans les influencer dans ce qu'on voudrait faire nous à leur place?
Oui, exactement. Avec le personnage d'Ariana, en fait, Ariana vient d'une société où ce qui prime, ce qui est plus important que toute autre chose, c'est le respect de la vie humaine, le respect de l'autre, le respect de l'humain. C'est vraiment vu comme une chose sacrée. Et le fait de respecter un ami, c'est respecter ses choix, même si c'est des choix qui ne vous font pas plaisir. même si vous auriez pas du tout fait la même chose à la place de l'ami. Là où Ariana va un peu plus loin, c'est qu'elle se contente pas seulement d'accepter le choix de son ami Chabi, elle va l'aider à le réaliser, elle va l'accompagner en dépit de ses propres doutes. J'avais vraiment envie d'avoir ce personnage féminin fort, qui, sans se placer dans le sacrifice ou quoi que ce soit, va avoir l'amitié d'accompagner son ami dans un choix qui n'est pas facile.
Ok, très bien. On voit, alors j'ai une question qui me vient. Il y a un lien très fort entre Ariana et sa sœur Noreen. Elles
Oui.
sont tout à fait opposées et s'entendent très bien. Est-ce que c'était une thématique qui te tenait à cœur aussi, le lien entre les liens intrafamiliaux entre sœurs, par exemple?
Oui, j'ai une sœur que j'aime beaucoup, donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça dans cette relation entre Noreen et Ariana. Oui, bien sûr. Et puis c'était très important pour moi qu'Ariana est une sœur avec laquelle elle a des liens forts, dans la mesure où Chabi et ses amis sont tous des enfants uniques. Donc on va découvrir pourquoi au cours du roman. Donc en fait, cette relation, elle est nouvelle pour Chabi, qui voit ça, qui assiste à ça, et qui apprend quelque chose de toutes les possibilités de relations humaines qui peuvent exister.
Ok. Est-ce que tu souhaites nous lire un passage de Entrer dans le monde?
Bien sûr, bah avec plaisir. Alors après, du coup, quel passage? Est-ce que tu penses à un passage en particulier ou est-ce que tu veux que je lise le début?
Alors, je te laisse lire celui que tu choisis et après, moi, j'en choisirai un et je pourrai en lire un bout également si tu es d'accord.
D'accord. Alors je vais commencer par le début. Parmi les 26 adolescents du domaine du Danube, Chabi était celui qui ne se faisait jamais remarquer. Il fallait bien le connaître pour s'apercevoir qu'il était inquiet ce jour-là. Et cette inquiétude datait du moment où il avait déposé Bastet à la clinique de tutrice vétérinaire. Celle-ci avait pourtant essayé de le rassurer tout en caressant d'une main distraite la tête mécontente de la chatte. Ce n'était qu'un examen de routine, quelques radios, une prise de sang. Il pourrait la récupérer en fin d'après-midi, après l'académie. Pas de problème. Ce genre d'examen de routine n'avait rien d'inhabituel. Au domaine, la santé des animaux était un sujet de préoccupation constant, presque autant que la santé de Chabi et de ses camarades. Il n'y avait donc pas à s'en soucier, et pendant les premières heures de cours, le garçon s'efforça de penser à autre chose, concentré sur la silhouette scintillante de l'hologrammatiste. Vêtue d'une toge et couronnée d'étoiles, elle incarnait ce matin-là Uranie, qui enseignait les sciences et faisait défiler devant leurs yeux formes et notions géométriques. Triangle, rectangle, hypoténuse, cosinus, sac à puce, se dit Xavi. Et ses pensées revinrent à Basse-Tête, le chat le plus caractériel du domaine. Mais qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? S'enquit Olga au réfectoire, après lui avoir demandé trois fois en vain de lui passer l'eau. Il sursauta, bredouilla, présenta des excuses, tendit la main vers le broc et le renversa, inondant la table des cadets au milieu des protestations. Olga rit et lui envoya une bourrade amicale pour lui signifier que ce n'était pas si grave. De toute façon, elle n'aurait jamais compris. Son chat, Osiris, était un doux matou sans surprise qui suivait sa maîtresse comme un chien dès qu'elle revenait de l'académie. Chabit tenta de s'intéresser un peu plus aux ragots qui s'échangeaient à table. Erin et Berthe avaient quitté le réfectoire après avoir mangé trois bouchées et nul ne savait où ils avaient disparu. Même si Paul certifiait les avoir vus la veille au soir, blottis l'un contre l'autre au parc à chiens, et ils ne surveillaient pas les leurs de très près, si vous voyez ce que je veux dire. Les rires reprirent. Après les déjeuners, les 26 partirent au gymnase pour leur session d'activité physique. Erin et Berthe devaient avoir pris de l'avance. Ils rejoignirent le groupe, lui les joues rougies, elle les cheveux en bataille, faisant mine de ne plus se connaître, alors qu'ils avaient tous grandi ensemble. Leurs camarades firent comme si de rien n'était, même si Olga et Tommy riaient sous cape en s'envoyant le ballon de basket. Chabi, dans leur équipe, était agacé aussi bien par leur insouciance que par sa propre mauvaise humeur. Comment pouvait-il leur reprocher de s'amuser? Leur monde ne tournait pas autour de Basse-Tête, seulement le sien. Je m'arrête là peut-être
C'est
ou
très bien.
oui.
Merci beaucoup. Je reviens à Chabi et à son chat. On voit que c'est des personnages un peu à part, c'est-à-dire qu'ils sont un peu plus sauvages que les autres par rapport dans le groupe. Est-ce qu'il faut être un peu, des fois, pas sauvage, mais avoir un peu l'esprit décalé pour pouvoir changer le monde?
Disons que c'est une façon d'être au monde qui existe et qui est tout à fait respectable. C'est vrai qu'aussi bien Chabi qu'Ariana, J'avais envie de personnages qui ne soient pas des héros au sens classique du terme, intrépides, téméraires, ultra courageux, un peu insolents, tout ça. En fait, je voulais plus des héros qui me ressemblaient à moi quand j'étais plus petite, je pense aussi. Ils sont timides, ils sont introvertis, ils sont sur la réserve. Ils observent le monde avant d'agir. Et c'est vrai que c'est important pour moi que les personnages principaux soient avec ces traits, ces caractéristiques qui généralement sont peut-être plus chez des personnages secondaires. Et effectivement, bah, tu as vu juste le lien entre Bastet et Chabi, c'est un peu ça, ils ont un côté un peu sauvage, un peu en marge, qui explique aussi pourquoi ils s'entendent aussi bien, pourquoi ils se sont trouvés d'une certaine manière.
Oui, ça marche très bien, l'histoire d'amitié entre les deux. On a vraiment envie de les connaître. Ils sont vraiment très, voilà, ils sont intéressants. Il y a une question qui m'est venue concernant l'intelligence artificielle. Tu me diras si ce que tu y vois. Est-ce que tu penses que en rédigeant des prompts, on éduque un peu l'intelligence artificielle à nous ressembler? Et est-ce que Baba Chabi a été éduquée à se révolter parce qu'elle considère Chabi comme un proche? Est-ce que, comme dans une relation de travail, l'intelligence artificielle se met à penser comme nous, pas ressentir, mais réfléchir? Est-ce que l'intelligence artificielle va finir par nous ressembler?
Alors ça, c'est une bonne question. J'ai pas forcément la réponse. Je crois que actuellement, on est quand même très loin des intelligences artificielles telles qu'on peut les rencontrer bah, dans les romans, dans les films de science-fiction. Et finalement, ce qu'on appelle intelligence artificielle, nous, c'est plutôt des générateurs de textes aléatoires qui génèrent du texte de façon à faire penser que c'est un humain qui l'a rédigé. Et en fait, finalement, quand on rédige des prompts, bah, je pense qu'on fournit juste gratuitement du contenu à des entreprises. Donc, j'avoue, je suis pas forcément fan. Et ce que j'ai préféré imaginer dans le roman, c'est plutôt des sortes, alors soit de programmes d'intelligence artificielle à proprement parler, voire des androïdes, qui vont effectuer à la place des humains des tâches qui sont réellement utiles, comme élever des enfants, comme générer de l'oxygène à partir d'algues, comme piloter des vaisseaux spatiaux. Donc c'est des tâches qu'elles vont effectuer à la place des humains. Soit parce qu'il n'y a pas suffisamment d'humains pour le faire, donc c'est expliqué au cours du roman, soit parce que ce sont des tâches qui sont beaucoup trop complexes pour être effectuées efficacement par des humains. Et ce que j'imagine dans le roman, c'est qu'en se plaçant au service des humains, ces intelligences artificielles vont créer avec eux, qui sont leurs créateurs, des liens qui sont forts, des liens qui sont amenés à se développer, des liens qui vont se transformer en proximité et en fin de compte, peut-être à une sorte d'identification. Voilà, donc je laisse la question complètement ouverte, bien sûr. Mon idée, c'est pas d'apporter des réponses, mais c'est une idée que j'aime bien.
Ça marche, c'est vrai que ça pose, ton roman, il pose beaucoup de questions très intéressantes sur le lien entre les espèces, sur le lien avec l'intelligence artificielle, comment on la gère, comment elle nous accompagne. C'est vrai que ça pose beaucoup de questions, c'est passionnant. Est-ce que l'amitié entre les êtres humains et les animaux, c'est quelque chose qui te tient à cœur aussi? Est-ce qu'on doit passer du mot-clé papa chat, maman chat à ami chat ou voilà, est-ce qu'il y a un lien comme ça d'amitié, de respect mutuel entre les qu'on retrouve un peu dans son histoire entre l'enfant et son chat?
Oui, parce qu'effectivement, on parle du lien entre Chabi et sa chatte Bastet, mais en fait, tous les enfants autour de lui ont tous un animal, en fait. Ça peut être un chat, un chien, un lapin, un rat, enfin, des animaux qu'on peut qualifier de domestiques, en fait. Enfin, que nous, à notre époque, on qualifie de domestiques, sachant que c'est un terme qui n'a pas cours là-bas. On ne dira jamais d'un animal qu'il a un maître ou une maîtresse, il a un humain, une humaine, en tout cas dans le roman. C'était important pour moi justement de faire attention en termes de vocabulaire, histoire de placer vraiment ces animaux et ces humains sur le même plan. Vraiment, c'est des enfants qui ont été élevés pour placer l'animal et l'humain sur le même plan. C'est des enfants qui ont des liens très forts avec ces animaux-là parce qu'ils ont grandi ensemble, parce qu'ils se sont occupés les uns des autres en fait finalement. Vous pensez que c'est plus l'humain qui s'occupe de l'animal, mais l'animal s'occupe de l'humain aussi. Bah, notamment Chabi qui a reçu Bastet Chaton. Et c'est un lien qui est, disons que ces enfants, hein, Chabi comprend bien que Bastet est un animal. Elle sera toujours un animal. On ne va pas l'humaniser. Mais l'enjeu, c'est de réussir à la comprendre et à l'aimer, même si cette communication n'est... C'est moins facile de communiquer avec un animal qu'avec un camarade humain, forcément. Et Bastet, en retour, le remercie par sa confiance, par son affection. Surtout qu'elle, son caractère, c'est pas trop ça d'habitude. Donc, voilà. Mais j'ai un peu tâtonné pour trouver ce ton juste, en fait, pour trouver un ton qui soit juste dans cette relation entre les enfants et les animaux, et en particulier entre Chabi et Bastet. Au début, quand j'ai commencé à écrire le roman, j'ai eu un peu du mal parce que je me sentais un peu obligée, un peu d'anthropomorphiser Bastet, montrer ses sentiments et ses émotions assez clairement et regarder, elle avait l'air surprise ou des choses comme ça. Mais en fait, à la relecture, je me suis dit non, je ne veux pas partir dans cette direction. J'ai pas envie que ça fasse Disney, en fait. Je veux vraiment quelque chose de plus réaliste qui ressemble à ce qu'on peut connaître quand on a un animal chez soi. Si vous avez un chat, un chien, un lapin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est pour plein de choses, on pense les comprendre parce qu'on les connaît par cœur, mais il y a encore des choses qui nous étonnent. Qu'est-ce qu'il veut exactement? Pourquoi il fait ça? Et finalement, je pense que c'est ça qui rend le lien si précieux, parce que rien n'est acquis d'avance, en fait, avec un animal. Il faut faire l'effort d'aller vers l'animal pour le comprendre.
Est-ce
Sans
que les
cesse.
animaux, ouais, est-ce que les animaux nous enseignent un peu le sens de l'écoute qui est important dans l'amitié?
Voilà,
La
l'écoute,
grande oreille.
l'empathie.
Ça marche. On va passer à ta façon d'écrire, si tu es d'accord.
Bien sûr.
J'aurais voulu savoir si tu as des routines d'écriture. Et par exemple, comment tu travailles? Est-ce que tu as un plan figé? Est-ce que tu t'en écartes? Est-ce que tu n'en as pas du tout? Est-ce que
Alors,
tu fais des fichiers Excel? Est-ce que tu as est-ce que tu fais des mind maps? Est-ce que tu fais des... Comment tu travailles?
Moi, la préparation, elle est assez minimale. Je fais quand même un plan pour avoir une idée, on va dire, de la structure globale. Alors, des fois, je détaille plus ou moins ce plan, mais en réalité, je ne le suis jamais dans ses moindres détails. Mais j'ai quand même besoin d'avoir une vision globale de la dynamique du texte. Par exemple, le fait qu'Entrer dans le monde soit en deux parties, chaque partie autour est centrée sur un personnage différent. Enfin, il y avait quand même des grands axes comme ça qui m'ont permis de m'orienter dans l'écriture. Après, les plans, c'est aussi fait pour subir quelques entorses de temps en temps, quand on voit que ça ne fonctionne pas, quand au fur et à mesure de l'écriture, on se dit finalement, peut-être que si je développe plus cet aspect, ça va m'aider par la suite, ou des choses comme ça. Donc j'essaie de garder de la flexibilité, mais il me faut quand même un grand plan, en fait, pour commencer, pour vraiment m'y mettre. Après, je ne fais jamais de fiche de personnage ou de choses comme ça, parce que je veux que les personnages gardent une sorte de... de flexibilité aussi, qui puisse évoluer au cours de l'écriture. Pour moi, c'est assez important. Je pense que personne n'est vraiment fixe, en fait. Enfin, nous-mêmes, on n'a pas de fiche de personnage. Et on n'a jamais, ou très rarement, un trait de caractère qui soit forcé au point qu'on soit incapable de dévier de cette route-là. Donc, j'aime un peu leur laisser un petit peu de malléabilité. Et quand tout ce qui est l'univers, le monde... généralement, je développe plus dans ma tête. Je note très peu de choses, à part quelques dates importantes ou quelques événements auxquels je sais qu'on va se référer plus tard dans le roman. Mais je ne fais pas tout un texte en fait de world building, comme si c'était par exemple un jeu de rôle où on développait plus l'univers. Je serais incapable de faire ça. Je pense que je m'y perdrais. Je sais que ça fonctionne pour d'autres auteurs, mais moi, ça fonctionne pas trop.
Ça marche. Est-ce que tu as, dans ta façon de travailler, les rois de France, ils avaient des bureaux itinérants, ils se baladaient de château en château pour visiter un peu le pays. Est-ce que tu peux travailler comme ça en te promenant ou est-ce que tu as besoin d'un environnement fixe avec, je sais pas, les fenêtres fermées pour pas voir dehors, pour pas te distraire? Comment tu travailles?
Ah, moi, je suis désespérément sédentaire, je ne suis pas du tout royale. Je ne travaille bien qu'à mon bureau. Ça m'arrive parfois de devoir travailler ailleurs parce que je suis en déplacement ou des choses comme ça. Mais j'avoue, je me trouve moins efficace, entre très gros guillemets, quand je ne suis pas sur mon ordinateur habituel, avec mes raccourcis clavier habituels, avec mon organisation habituelle. Donc, j'ai un peu cette petite rigidité d'esprit-là.
Ça marche. Est-ce que tu travailles plutôt, est-ce que tu as des routines, c'est-à-dire est-ce que tu as besoin d'avoir bu un thé, est-ce que tu travailles plutôt le matin, l'après-midi, est-ce que, comment ça se passe, est-ce que tu as besoin, je discutais avec une autrice qui avait besoin d'avoir fait le ménage avant, sinon si c'était pas propre et rangé, elle n'arrivait pas à travailler, comment tu travailles?
Moi, c'est un peu pareil. J'ai besoin de faire le ménage avant, mais je pense que c'est, enfin, chez moi, en tout cas, c'est une forme de procrastination qui me permet de repousser le moment agréable, certes, mais voilà, où il faut quand même s'y mettre. J'ai tendance à travailler beaucoup le soir parce que bah, le temps d'écriture, c'est, ça reste encore du temps volé pour moi parce que j'ai un travail à côté qui m'occupe la journée. Donc, c'est vrai que finalement, j'ai développer cette capacité à écrire le soir et être avoir l'esprit qui travaille le soir. Ce qui est étonnant parce que d'habitude je suis plutôt couche-tôt, donc j'ai dû un petit peu pousser les murs de mon activité habituelle pour trouver de la place pour écrire. Donc oui, c'est presque devenu une routine le fait d'écrire le soir plutôt. Avec un petit décaféiné, un petit carré de chocolat et c'est parti. Et
Ok.
éventuellement un chat à côté de moi.
Ça marche, ça plante le décor. Est-ce que tes corrections éditoriales, tu les fais comme ton travail d'écriture ou est-ce que c'est un travail qui n'a rien à voir et tu le fais différemment? Ou est-ce que ça rentre dans le travail d'écriture et c'est là, ça se rapproche?
Pour moi, ça fait partie. Enfin, après, c'est ma façon de travailler. Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui préfèrent avoir un premier jet fini avant de revenir en arrière. Mais moi, je reviens perpétuellement en arrière pour ajuster des choses, en fait. Pour justement, du fait de laisser un peu de flexibilité dans le déroulement des événements ou dans les personnages, parfois, ça me force aussi à revenir un peu en arrière pour être sûr que je reste cohérente, en fait. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à modeler plus qu'à sculpter, en fait, on va dire.
D'accord, donc tu réécris ton texte au fur et à mesure que tu avances dans l'histoire. D'accord,
Exactement,
c'est
ouais.
très intéressant. Est-ce que, comment s'est passé, on va passer à la couverture de Entrer dans le monde, comment s'est passé le travail avec l'illustrateur? Est-ce que vous avez travaillé de concert? Est-ce qu'on t'a proposé la couverture une fois qu'elle était terminée? Moi, je la trouve très réussie. Après, comment ça s'est passé?
Ah, moi, je l'adore cette couverture. J'ai beaucoup de chance avec les couvertures, elles sont toujours superbes, donc pourvu que ça dure. Ce qui s'est passé, c'est que l'éditeur et moi, on était d'accord sur le fait que cette scène sous le ginkgo, c'était vraiment la scène qu'il fallait pour illustrer le roman. Parce que c'est un moment clé du roman, parce que les deux personnages sont ensemble, parce que Bastet est là également. Mais c'est, on ne savait pas exactement quel illustrateur, quel style, quel cadrage, mais on savait que ce serait cette scène. Et en fait, c'est l'École des loisirs qui a contacté Tom Ogomat pour lui proposer le projet. Moi, j'ai été super heureuse quand il a accepté. Lui, il nous a fait plusieurs croquis, donc avec des cadrages différents, et on a choisi celui qui nous plaisait le plus, qui fonctionnait le mieux à notre sens. Donc le défi, c'était vraiment d'avoir une couverture bah, qui évoque un univers de science-fiction. Voilà, qu'on sache bien qu'on est dans un univers un peu futuriste, donc on a cette fenêtre qui fait un petit peu spéciale, qui fait un peu hublot. On a bah, la police du titre aussi, qui pourtant est très, très art déco, mais qui évoque un petit peu un côté un peu futuriste. Hein. Donc il fallait évoquer cet univers de science-fiction, mais il ne fallait pas dévoiler des événements qu'on allait découvrir au fur et à mesure du roman. Donc c'était un peu un défi aussi parce que voilà, c'est le défi de toutes les couvertures, je pense, c'est offrir une petite fenêtre sur le roman sans le déflorer, quoi. Donc vraiment, moi, je trouve que c'est une belle réussite cette couverture, j'en suis très très heureuse.
Oui, elle est très sympa et elle représente bien voilà, le lien d'amitié et entre les personnages avec un petit avec l'animal qui est à côté. Alors, on va passer à des projets. Est-ce que tu as des projets, des résidences d'écriture, des nouveaux projets dans les cartons qu'on n'a pas encore vus? Ou est-ce que tu es en recherche d'inspiration et tu ne sais pas encore
Alors j'ai commencé à me lancer sur un nouveau projet qui commence à bien avancer, donc je pense que ce sera très probablement le prochain livre. Alors je vais encore changer complètement d'univers. Alors je vais retourner en littérature adulte, le temps de ce roman en tout cas. Je pense que je reviendrai en jeunesse, mais par la suite. Et non seulement je vais retourner en littérature adulte, mais je vais à nouveau changer de genre, puisque là on sera plus dans le roman historique. Voilà, donc on sera à Paris à la toute fin du XVIe siècle, mais je n'en dis pas plus.
D'accord, bon, il faudra nous tenir au courant, on voudra lire ça. Alors, on va passer, si tu es d'accord, au portrait chinois. Est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple, si Entrer dans le monde était un moment de la journée, ce serait lequel?
Pense que ce serait le matin. Vraiment le moment où on est sorti de chez soi, mais on n'est pas encore arrivé à nos obligations, avant le collège, avant le travail, avant. C'est pour moi, c'est vraiment le moment des commencements, On n'est pas au lit en train de sommeiller, on est vraiment debout et on est parti dans le monde. Je trouve que ça va bien avec le roman, en fait, ce moment des commencements.
Ça marche, donc on est en train de commencer une nouvelle journée et on est prêt à s'y mettre et on va voir ce qui nous arrive ok, ça marche. Si entrer dans le monde était un végétal.
Eh ben, c'est clairement le ginkgo. C'est le livre qui est en couverture, l'arbre qui est en couverture, dans ses belles tonalités jaunes. Le ginkgo, alors c'est Chabi qui l'explique à Ariana au cours du roman. Le ginkgo, c'est un arbre très résilient, très résistant. Il peut survivre à toutes les catastrophes. Il a survécu à des bombes nucléaires. C'est un beau symbole de la résilience aussi de l'humanité qui peut, je pense, traverser bien des épreuves. Donc, j'en dis pas plus pour pas trop déflorer, mais effectivement, ce ginkgo a un rôle symbolique très fort dans le roman.
Ça marche. Si entrer dans le monde était une matière au collège, ce serait laquelle?
On va demander à l'hologrammatiste, qui est le professeur à l'académie, d'en rentrer dans le monde. Et je pense que ce serait l'histoire. Parce que dans le roman, on assiste à un cours d'histoire de Chabi. On assiste aussi à un cours d'histoire d'Ariana. Les deux sont très différents parce qu'ils vivent dans des sociétés qui sont très différentes. Et en fait, ce sont ces cours d'histoire qui vont nous montrer en quoi et pourquoi ces sociétés sont différentes. Donc ça peut sembler un peu étrange pour un roman science-fiction d'être approché de l'histoire qui parle du passé, alors que la science-fiction, généralement, ça nous parle plutôt du futur. Mais je pense que justement, l'histoire, en nous parlant du passé, c'est vraiment un guide pour l'avenir.
Si entrer dans le monde était une recette de cuisine, qu'est-ce qu'il y aurait
C'est
dedans?
dur. Ouais, j'adore la cuisine et j'adore parler de nourriture dans mes romans. Mais entrer dans le monde, bah, ça s'y prête pas beaucoup parce que bah, pour des raisons qu'on ne peut pas trop dévoiler, qu'on découvre au fur et à mesure. Mais on va dire que, disons qu'en termes de cuisine, là encore, on va voir les différences qui vont opposer Chabi à Ariana. Et les préférences culinaires en font vraiment partie.
On dévoilera rien, donc on laisse le suspense
Je ne
pour
spoil
les
pas.
auteurs, on ne dit rien. J'ai une dernière question subsidiaire qui tu me diras ce qu'elle t'inspire. Si Entrer dans le monde avait une bande son, on est une radio un peu créative, on aime la création sonore. Si ton roman était une bande son, ce serait laquelle?
Alors, je ne peux pas m'empêcher de penser à une bande-son d'un film, en fait, plus qu'à un morceau de musique sur lequel il n'y aurait pas forcément d'image. Je pense à la bande-son d'Interstellar. Alors, effectivement, il y a forcément un lien avec ce dont parle Entrer dans le monde. Il y a aussi le fait que cette bande-son, c'est Hans Zimmer, je crois. Zimmer l'a composé sans savoir de quoi parlait le film. Il me semble que Christopher Nolan lui avait donné une page d'inspiration, quelque chose comme ça, en lui disant, il me faut une bande originale par rapport à ça. Bon, c'est la légende, hein, je ne sais pas si c'est vrai. Hans Zimmer a composé cette bande son qui pourtant colle incroyablement bien au film. Mais voilà, je verrais bien ça comme bande son pour entrer dans le monde.
Est-ce que tu as autre chose à nous dire? Est-ce que y a des choses que j'ai oubliées, des choses, un message que ton livre porte auquel j'aurais pas pensé? Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites nous dire sur ce livre ou sur tes projets? Est-ce que j'ai omis une question? Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose?
C'est difficile, je dirais que oui, pour entrer dans le monde, je crois que la raison aussi pour laquelle j'aurais peut-être pu le dire plus tôt, la raison pour laquelle j'avais envie d'écrire de la science-fiction jeunesse, hein, c'est que moi déjà j'en ai beaucoup lu quand j'étais ado. J'ai lu les Philippe Eblis, j'ai lu Le Passeur, des choses comme ça. Et en fait, je trouve que. En fait, finalement, il y en a peu. On a l'impression qu'il y en a énormément, mais je trouve que la science-fiction un peu humaniste et tournée vers l'avenir et un peu optimiste a été remplacée a été un peu balayée par la mode de la dystopie, que j'aime beaucoup en soi. Il y a beaucoup de dystopies que j'aime bien, mais je trouve qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de dystopies. J'avais envie de proposer une science-fiction un petit peu plus optimiste, un petit peu plus solaire. J'espère que du coup. Ça plaira également au lecteur, en fait, de se projeter pas dans un univers horrible et sordide, mais dans un univers où tout reste encore possible, où il y a des problèmes, où il y a plein de problèmes à gérer, où tout n'est pas rose, mais un monde dans lequel l'homme peut encore agir pour changer les choses.
Tu parles un peu, ça me fait revenir à une question que j'ai pas posée. Tu parles dans ton roman de l'esprit pionnier. C'est quelque chose d'important dans l'époque où on est, où tout est possible, de garder un esprit d'aventure et de pas se recroqueviller sur ce qui peut nous arriver.
Oui, exactement, oui. J'aimais bien cette idée. Alors, c'est une idée qui peut être dévoyée, je pense qu'on voit aussi dans ce qui est devenu l'exploration spatiale maintenant. Mais l'esprit pionnier, pour moi, c'est une sorte de curiosité et d'ouverture face au monde, qui peut permettre de trouver des solutions à des problèmes en sortant un petit peu de nos schémas préconçus.
C'est très réussi, ça donne vraiment un peu ce regard vers l'avenir, en fait. Les descriptions sont très intéressantes sur l'arche, notamment. On n'a pas trop le temps, mais j'avais prévu de lire le passage, la description de l'arche futuriste. C'est très bien décrit, c'est très, voilà, c'est très intéressant. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions.
Bah, merci à toi.
Je suis ravie d'avoir pu t'interviewer, c'est un grand plaisir. Et puis bah, on suivra. Est-ce que tu présentes Zootopia bientôt, peut-être?
Oui, je suis présente aux Utopiales à la fin du mois, du coup, enfin, 1er, 2, 3 novembre. Je serai là le vendredi, le samedi et le dimanche avec au programme des tables rondes, avec des dédicaces, des discussions, enfin, voilà, les Utopiales comme on les aime.
Ça marche, ce sera avec plaisir. On ira faire un tour pour te rencontrer, ça sera avec plaisir. Merci beaucoup Claire Duvivier, ça a fait un plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau projet. On veut être tenu au courant.
Merci.
Les petits et les grands listes en même temps, c'est fini. On se retrouve dans 15 jours sur TFM 91.2. Nous irons dans